Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Le 18e gouvernement peut se mettre au travail. Ses 11 membres ont adopté ce matin la répartition des secteurs. La réduction des aides sociales par la province sud et notamment pour les boursiers. Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province, en est expliqué sur RRB ce matin. Comme chaque année, l'armée rend hommage aux 7 marins qui ont péri dans le crash d'un DC-4. C'était le 21 janvier 1982 au-dessus de la tribu de Bangou. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant et à partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé. Donald Trump fixe le cap dans un discours offensif après être devenu le 47e président des États-Unis. Et puis du tennis dans la page sport. Gaël Monfils a fait un beau parcours à l'Open d'Australie, mais il a dû abandonner hier dans son 8e de finale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Vous retrouverez le magazine Citoyen juste après cette édition. Nicolas Legrand, bonjour.
Bonjour.
Un citoyen consacré à la rentrée universitaire cette semaine.
Oui, l'Université de la Nouvelle-Calédonie qui accueillera ses élèves à partir du 4 février pour les primo-entrants et dès le lundi 10 février pour les autres. Alors, quelles formations sont proposées? Comment s'inscrire ou même trouver un logement? Autant de questions que nous aborderons ce midi lors de notre magazine Citoyen que j'aurai l'honneur de présenter. Nous recevrons pour l'occasion Gaëlle Lagadec, responsable de la vie étudiante et des études, mais aussi Yannick Lérand, directrice de la Maison de l'étudiant, ainsi que Yvona Chouen, étudiante à l'université.
On se retrouve donc pour le magazine Citoyen dès la fin de ce journal. Le 18e gouvernement au travail. Après l'échec d'hier, une majorité s'est dégagée ce matin pour voter la répartition des secteurs. Les membres du Rassemblement, des loyalistes de Calédonie Ensemble et de l'Éveil Océanien ont voté pour.
Oui, d'après nos informations, Alcide Ponga, le président du gouvernement, est en charge des relations extérieures et de la sécurité civile. Il est aussi chargé d'animer et de contrôler le secteur du droit civil, ainsi que du suivi des questions liées au transport aérien international et à la promotion internationale de la Nouvelle-Calédonie. Alcide Ponga est également chargé des relations avec les collectivités, le Congrès et le Conseil économique, social et environnemental, ainsi que des sujets en lien avec la francophonie. Et enfin, il est chargé de la stratégie minière. Thierry Santa est quant à lui chargé d'animer et de contrôler les secteurs du budget et des finances, du suivi des contrats de développement et de la fonction publique. Il est également chargé du suivi des comptes sociaux ainsi que du suivi des questions liées au handicap et à la dépendance. Comme dans le précédent gouvernement, Isabelle Chamorro est chargée d'animer et de contrôler les secteurs de l'enseignement et des questions relatives à l'enseignement supérieur. Isabelle Chamorro, qui est également chargée de la protection de l'enfance, des sujets liés à la famille et à l'égalité entre les femmes et les hommes. Isabelle Chamorro, qui est enfin chargée de la cause du bien-être animal et de l'audiovisuel. Quant à Christopher Gigès, il est le porte-parole de ce 18e gouvernement. Il est chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'économie, du commerce extérieur, de la fiscalité, du travail et de l'emploi, de l'énergie et du numérique. Christopher Gigès, qui est également chargé des sujets liés à l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Quant à Jérémy Catidjo-Monnier, pour Calédonie Ensemble, il est chargé d'animer et de contrôler le secteur de la transition écologique et du changement climatique, du développement durable, de la biodiversité et de la gestion et de la valorisation du parc naturel de la mer de Corail. Jérémy Catidjo-Monnier est aussi chargé de la politique de l'eau et de la transition alimentaire, des secteurs qu'il animait déjà au sein du 17e gouvernement. Quant au membre Éveil Océanien, Petelo Sao, il est chargé d'animer et de contrôler les secteurs de la construction, de l'habitat et de l'urbanisme. Petelo Sao est également chargé du suivi du patrimoine immobilier et des moyens de la Nouvelle-Calédonie. Et il est enfin chargé de l'innovation technologique et de la transformation numérique, de l'administration, de la modernisation de l'action publique, ainsi que de l'évolution des politiques publiques. Côté indépendantiste maintenant, pour l'UC, Samuel Népéo n'est chargé d'animer et de contrôler les secteurs du transport aérien domestique, des questions liées aux affaires maritimes et des infrastructures maritimes et portuaires. Samuel Népéo n'est également chargé des questions liées à la recherche et à la valorisation des ressources naturelles. Et il est enfin chargé de la formation professionnelle. Gilbert Huyénon, lui, est chargé d'animer et de contrôler les secteurs du transport terrestre et des infrastructures publiques qui y sont liées, ainsi que de la prévention routière. Gilbert Huyénon est enfin chargé du suivi du fonds Nickel. Michael Forest, lui, est chargé d'animer et de contrôler les secteurs de la jeunesse, des sports et de la culture. Michael Forest qui est également chargé du suivi des questions liées à la citoyenneté. Pour le groupe UNI, maintenant, Adolphe Digoué est chargé d'animer et de contrôler les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Adolphe Digoué qui est enfin chargé du pilotage et du suivi du fonds d'électrification rurale. Quant à Claude Gambet, il est chargé d'animer et de contrôler les secteurs de la santé et de la protection sociale. Il est chargé du suivi du plan Docamo, être épanoui et de la politique de solidarité. Et en lien avec le président du gouvernement, Claude Gambet est enfin chargé des affaires coutumières et des relations avec le Sénat coutumier ainsi que les conseils coutumiers. Pour Alcide Ponga, le président du gouvernement, l'important c'est que maintenant chaque membre se mette au travail. Écoutez.
Il y a eu des discussions qui ont marché dans un sens et pas dans l'autre. Ce que je disais hier, c'est que on devait continuer et poursuivre, et au final, on a calé les choses avec des partenaires hier pour trouver une certaine majorité et puis toujours avoir comme objectif de démarrer le plus vite possible. Ça a été calé avec 2 voix supplémentaires pour qu'il y ait une majorité, mais c'est sûr que quand vous regardez la répartition des secteurs avec les collègues indépendantistes, on a laissé des secteurs importants à l'autre côté. Et c'est aussi la philosophie que je souhaite ici, c'est qu'on partage le travail, qu'on avance et que ça ne soit pas des problématiques de personnes. Il faut qu'on avance.
D'après nos informations, le blocage venait des membres UC. Gilbert Thuyénon voulait récupérer le secteur du transport aérien international ainsi que la gestion du port. Et Michael Forest, la promotion du tourisme. Samuel Népéoun, membre UC, était déçu à la sortie de la réunion du gouvernement ce matin.
On est déçu. On aurait pu aboutir à ce que j'appelle un partage des responsabilités, qui soit plus équilibré. On l'a dit depuis le début, qu'on n'était pas là pour quémander, on n'était pas là pour se battre pour des répartitions de portefeuilles ou de postes, etc. Ce qui était important pour nous, c'était cet exercice-là, parce que c'est dans le cadre de la répartition des portefeuilles qu'on doit pouvoir se mettre au travail. Ce qui était important pour nous, c'est que nous soient attribués très rapidement les portefeuilles qui nous permettent d'avancer. Le pays nous attend et il y aura besoin que le gouvernement se mette en place rapidement. Simplement, on va dire qu'on déplore que on n'aura pas réussi cet exercice. Ça aurait été l'occasion de montrer aux Calédoniens qu'on est capable de dépasser nos clivages politiques et de pouvoir travailler ensemble, surtout dans une période compliquée et avec une durée de vie d'un gouvernement qui est très court. Maintenant, ça doit être derrière nous. Maintenant, il faut se mettre au travail.
Voilà donc pour la réaction de Samuel Népéoun, membre UC, FLNKS et nationaliste de ce 18e gouvernement. Voilà ce qu'on pouvait retenir ce matin de la répartition des secteurs.
Le financement du chômage partiel, c'est l'un des dossiers chauds que va devoir gérer le gouvernement. Les syndicats se sont mobilisés ce matin et sont rassemblés devant le Congrès. Il s'agit des principaux syndicats du territoire qui ont été conviés par le CESE, réunis ce matin pour évoquer les changements qui seront opérés sur le chômage partiel spécifique lié aux exactions débutant en mai 2024. Délibération qui sera également étudiée cet après-midi par la commission permanente du Congrès. Alexis Fallet-Matagé est le secrétaire général adjoint de l'USOINC.
Le projet de texte aujourd'hui en l'état ne satisfait pas. Donc c'est 70% à 50% de baisse, c'est 2,5 à 2 au niveau du plafond et c'est une réduction du délai de 6 mois à 3 mois. Donc ça, on n'a pas de visibilité. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de relance de l'emploi. Donc aujourd'hui, il est important qu'on maintienne le pouvoir d'achat, comme on entend dire partout, le pouvoir d'achat qu'on puisse maintenir pour que les gens puissent vivre en attendant qu'on puisse relancer la machine de l'économie en Calédonie. L'alimentaire ici, 78% plus cher. Les gens, comment ils font pour vivre? Ils n'ont plus de sous pour payer les logements. Les bourses augmentent, donc c'est compliqué aujourd'hui. Donc nous, on est là pour mobiliser, pour montrer notre désaccord et pouvoir défendre l'intérêt général des salariés.
Il y a moins d'un mois, les élus du Congrès avaient décidé à l'unanimité de prolonger le chômage partiel jusqu'au 30 juin 2025, espérant pour le financer recevoir un soutien financier de l'État. Gilles Brial s'est expliqué sur les décisions de la province sud de réduire certaines aides sociales en raison des difficultés budgétaires actuelles. Le deuxième vice-président de la province était notre invité ce matin et il a notamment évoqué la problématique des bourses scolaires. La province va réduire le montant des bourses pour la cantine ou encore le transport. Et pour les nouveaux boursiers, la province demande maintenant 10 ans de résidence pour attribuer les bourses.
C'est une mesure qu'on a prise l'année dernière. Elle nous semble logique. L'objectif, c'est de stabiliser nos populations. Les critères de bourse pour obtenir une bourse sont définis. J'ai été choqué, moi, hier, au journal télévisé, de voir une représentante du MNIS nous expliquer que en France, il fallait moins de 10 ans pour devenir...
Il fallait
5 ans pour être naturalisé. Les mêmes qui ont brûlé la Nouvelle-Calédonie parce qu'ils ne voulaient pas que des personnes qui sont présentes depuis 24 ans en Nouvelle-Calédonie puissent voter, nous expliquent que 10 ans, c'est beaucoup trop long pour avoir les aides. C'est quelque chose de naturel qui a été voté l'année dernière par l'Assemblée de la province sud et pas que pour les bourses d'ailleurs.
Et nous sommes également revenus avec Gilles Brial sur ce qui est présenté par certains comme une décision politique, celle de ne plus accepter les attestations de logement pour l'inscription des enfants dans le primaire. Écoutez Gilles Brial.
Mais c'est pas une décision politique, c'est une décision de bon sens. C'est quelque chose qui existe dans le secondaire depuis des années. On n'a entendu personne se plaindre. Il suffit que la province sud prenne une décision pour qu'on considère que c'est une décision décision punitive. Mais encore une fois, il y avait beaucoup d'attestations de complaisance. C'est-à-dire, je choisis une école, eh ben, je vais faire une attestation, je vais trouver un oncle, une tante, une grand-mère qui habite dans le coin, et je vais faire une attestation de résidence, même si j'y habite pas. Et ça ne peut pas marcher comme ça, parce que la rentrée, elle se prépare avec les communes, qui nous mettent à disposition une classe dans les écoles et le matériel qui va avec, et la province, qui lui met un enseignant pour pouvoir accueillir les élèves. Et on ne peut pas bouger constamment les flux. Donc, c'est une rentrée qui est particulière parce qu'elle suit l'exercice de 2004, mais qui aura un fonctionnement normal, qui sera une rentrée normale pour les élèves. Et moi, je remercie vraiment les enseignants et l'ensemble des équipes pédagogiques pour leur implication, pour que ça se passe bien.
La province Sud, comme de nombreuses autres collectivités, doit faire face à de graves difficultés financières à la suite des émeutes du mois de mai 2024. Et ces décisions de restrictions budgétaires sont donc conjoncturelles, a expliqué Gimbrial.
Avant le 13 mai, on avait mis tout en place un tas d'aides sociales qu'on est obligé de mettre en pause ou qu'on est obligé de diminuer par rapport à la situation budgétaire actuelle. Notre objectif, là je parle de plus de politique, c'est d'offrir des perspectives aux Calédoniens. C'est qu'on sorte de la crise politique dans laquelle on est, qu'on soit capable de trouver une solution de sortie de l'après-accord de Nouméa et qu'on fasse revenir du monde en Nouvelle-Calédonie pour recréer de la richesse. À partir du moment où on recrée de la richesse, ben on recrée une augmentation des impôts qu'on redistribue dans les collectivités qui peuvent à nouveau mettre en place une politique plus performante pour la population.
Donc c'est de la mécanique.
C'est de la mécanique, mais c'est de la politique qui est liée aux perspectives qu'on est capable de donner aux Calédoniens. Et ça, il faut que l'ensemble des acteurs politiques le comprennent. Leur rôle, c'est d'être capable de se mettre autour d'une table et de dire on est capable d'offrir un avenir à la Nouvelle-Calédonie.
Gimbrial, le deuxième vice-président de la province Sud, invité ce matin sur Radio Rythme Bleu. Vous pouvez retrouver cette interview podcast audio et vidéo sur notre site internet.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici la question du jour. Face aux difficultés financières qu'elle rencontre, comprenez-vous la décision de la province Sud de réduire ses aides aux boursiers? Si vous le comprenez, vous tapez 1. Si vous ne le comprenez pas, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à la question d'hier, pour 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est une bonne chose. Ils sont 21% à penser que ce n'est pas une bonne chose. Il est 11h43, une première pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie, notamment cet hommage rendu aux marins qui ont péri dans l'accident du DC-4. C'était en 1983.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Mazda, des véhicules à découvrir. Mazda, un monde d'élégance, de raffinement et de performance. Mazda Citadine, Mazda SUV et Compact SUV, ainsi que le nouveau pick-up Mazda, des véhicules et des offres exceptionnelles sur toute la gamme à visiter dès à présent en concession au showroom Mazda, situé 174 rue Auguste Bénébig, Magenta. Mazda vous souhaite bonne route.
Besoin d'une clôture? Nous l'avons. La Maison de la Clôture est spécialisée dans la vente et la pose de tout type de clôture. Particuliers et professionnels, nous avons du choix et du stock. Info Facebook, la Maison de la Clôture. RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
L'émotion est toujours vive 43 ans après. Le 21 janvier 1982, un DC-4 de la marine s'écrasait au niveau de la tribu de Bangou à la Tamoua. À son bord, 7 marins perdirent la vie. Une cérémonie était organisée aujourd'hui pour leur rendre hommage, Charlotte Coulson.
Ambiance solennelle ce matin à la chapelle de Bangou. Sur place, plus d'une soixantaine de participants, des chefs coutumiers, des membres de la marine et de l'armée de l'air, des anciens combattants qui tous gardent le souvenir vif de ce drame survenu il y a 43 ans maintenant. Car le 21 janvier 1982, l'équipage de l'avion DC-4 de l'escadrille 9S se prépare pour un vol d'entraînement. Les 7 marins enchaînent les exercices depuis Tontouta dans la nuit noire. Les 9 premières rotations se déroulent parfaitement. Seulement, lors de la 10e, l'avion change de direction et passe côté montagne pour une raison qui reste encore inconnue. À 21h04, le DC-4 percute le mont Kokatea au-dessus de la tribu de Bangou à la Tamoua. Tous ses passagers périssent. Un événement qui marque les esprits. Une stèle est érigée pour leur rendre hommage à la chapelle de Bangou. Et cette année, c'est Christian Futoli, le vice-président de l'Association des marins et marins anciens combattants de Nouvelle-Calédonie, l'AMAC, qui a animé la cérémonie.
C'était un vol d'entraînement ordinaire. 18h, briefing. 19h, mise en route des moteurs. Après inspection des pilotes et des mécaniciens de bord qui font le tour d'avant, ça fait partie de la procédure. Et ils ont décollé. À 21h04, l'avion s'est crashé sur la pente de Concatéa.
C'est un avion qui a été donné par Truman, président américain, en 1945, qui a été donné à l'armée de l'air. L'armée de l'air a procédé à la marine. Et depuis, c'est les marins qui l'ont utilisé pour faire des évasades, des missions, mais surtout des transports de VIP et personnalités pour donner un coup de main à UTA et Air France. Tous les ans, on célèbre l'anniversaire de ces crashs en compagnie de la tribu, des chefs coutumiers et tout ça, et de toutes les autorités administratives et militaires du coin. On leur rapporte quelque chose de devoir de mémoire. C'est très important, surtout pour la jeunesse.
Une 43e cérémonie à laquelle étaient aussi invités les maires des communes alentours. Un représentant de la mairie de Païta a notamment déposé une gerbe sur la stèle.
Une lutte sans fin depuis son apparition sur le territoire en 2019. L'Oryctes rhinocéros ou rhinocéros du cocotier envahit chaque année de plus en plus de communes, Léana Colombo.
Oui, c'est pourquoi le gouvernement, au travers de la DAVAR, met en place des campagnes de sensibilisation. De nombreuses régions du Pacifique sont également touchées par cet insecte qui s'attaque, comme son nom l'indique, aux cocotiers et aux palmiers. En Calédonie, 4 communes sont considérées comme infestées. La Foy, Bouloupari, Païta et Dumbéa. Et 7 sont dites impactées, c'est-à-dire des zones où les scarabées ont déjà été repérés. Les communes concernées sont Nouméa, Le Mont-d'Or, Saraméa, Farino, Moindou, Canala et Pointe-Boute. L'objectif principal est d'empêcher cet envahisseur de rejoindre les îles Loyauté qui sont à l'heure actuelle encore épargnées. Pour cela, des mesures sont mises en place, explique Aurélie Chan, responsable de la section protection des végétaux au CIVAP de la DAVAR.
Il y a des contrôles qui sont faits au départ des îles. Tout n'est pas autorisé pour les îles. Tout ce qui est cocotiers, palmiers, compost est interdit vers les îles. Les plantes au départ des avions sont interdites. Et ensuite, pour tout ce qui est plantes-bateaux, il y a une inspection obligatoire par le CIVAP au niveau des îles. Et ensuite, on a déployé du piégeage au niveau des différents sites, au niveau de l'aéroport à Magenta, pour protéger toute contamination de l'Oryctes au niveau des avions qui pourraient du coup se retrouver dans les îles. Et au niveau des zones portuaires aux alentours de Nouméa.
En 2024, sur les 176 pièges établis, plus de 1700 rhinocéros du cocotier ont été interceptés. Pour limiter sa propagation, les Calédoniens peuvent adopter des gestes simples lorsqu'ils sont dans des zones infestées.
Les méthodes de gestion, c'est déjà pas accumuler de déchets verts ou alors les retourner régulièrement. Et si on trouve des larves, eh ben, les écraser le plus possible parce que c'est le seul moyen de lutte réel, c'est d'agir contre les larves. Ensuite, surveiller ces cocotiers et palmiers, ce qui nous permettra de dire si on est en présence d'Oryctes ou pas. Et le dernier point, c'est ne pas déplacer de plantes ou de végétaux ou de compost ou de déchets verts d'une zone connue pour être impactée ou contaminée vers une zone indemne.
Si vous voyez des signes d'infestation, notamment dans le nord ou sur les îles, contactez le CIVAP au 73 32 66, 73 32 66 ou envoyez un mail à l'adresse davar.civap-pv@gouv.nc.
Il est 11h49. Après une pause, on partira aux États-Unis pour évoquer la cérémonie d'investiture de Donald Trump. C'était tôt ce matin pour nous.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Boucherie Bobby, nous respectons l'essentiel, la qualité et la nature de nos produits, des viandes savoureuses sans conservateurs, un goût authentique et naturel. L'excellence au cœur de votre assiette, Boucherie Bobby, 56 rue Gervolino à Magenta, 28 28 33.
Des conseils concernant les placements, l'épargne, les SCPI ou encore la retraite? Caplif, votre expert calédonien en gestion de patrimoine, vous accompagne avec des solutions personnalisées. Caplif, depuis 35 ans à vos côtés. Et ce n'est que le début. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052, ORIAS 13103.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec Jean-François Baudet et direction les USA.
Oui, pour ce qu'on appelle une prise en main énergique, Donald Trump a prêté serment sur la Bible, comme tout président américain en début de mandat, lors d'une cérémonie d'investiture qui s'est déroulée à l'intérieur du Capitole à Washington. Le désormais 47e président des États-Unis en exercice a prononcé ensuite Le traditionnel discours, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a fixé le cap.
L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant. Et notre première priorité sera de créer une nation qui est fière, prospère et libre. L'Amérique sera bientôt plus grande, plus forte et bien plus exceptionnelle qu'auparavant. Nous sommes face à une crise de confiance. L'establishment corrompu a extrait le pouvoir du peuple, ne s'est plus reposé sur les piliers de notre société. À partir de maintenant, le déclin des États-Unis est terminé.
Et après cette cérémonie d'investiture, le président américain s'est rendu au Capitol One Arena. Il a fait installer un bureau sur la scène pour signer symboliquement ses premiers décrets pour montrer qu'il voulait aller vite, ce que ses supporters ont particulièrement apprécié.
C'est un signe fort. Il y a de l'espoir maintenant. Vous n'auriez pas vu de telles scènes si Joe Biden avait été réélu. Il n'y avait pas d'espoir avec lui. Donald Trump, au moins, il fait ce qu'il dit et c'est ce que nous voulons.
Pendant sa campagne, il a toujours dit qu'il y aurait des dossiers auxquels il fallait s'attaquer dès le premier jour de son mandat. Et c'est ce qu'il a fait. Je suis heureuse. On a récupéré notre pays. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il va prendre en main. C'est pour ça qu'on a voté pour lui. Sur la question migratoire et l'économie surtout.
Donald Trump a donc signé ses premiers décrets. Il doit en signer une centaine les premiers jours de son mandat pour lancer son action. Il entend ainsi stopper l'immigration et va lancer le plus grand programme d'expulsion du pays qui pourrait concerner 11 millions de personnes. Il s'apprête également à envoyer des militaires à la frontière avec le Mexique. Côté économie, Donald Trump devrait être imposé dans les heures qui viennent une taxe douanière de 25% sur tous les produits canadiens ou mexicains qui entrent aux États-Unis. Il veut aussi déclarer l'état d'urgence énergétique pour doper la production US et faire baisser les prix pour tous les Américains. Il a annoncé au passage que les USA allaient de nouveau sortir de l'accord de Paris sur le climat. Il entre également en guerre contre le mouvement wokiste et va signer un texte ordonnant aux administrations de ne reconnaître que deux genres. Le nouveau président américain veut imprimer un rythme fort dès le début de son mandat et il peut pour cela compter sur des soutiens financiers de première importance. Le monde de la tech a en effet décidé de le soutenir. Aurélien Fleureau pour Europe 1.
Vous avez tout simplement le podium des hommes les plus riches du monde en ce moment. Elon Musk, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg, soit Tesla, SpaceX, Amazon, Facebook, Instagram, bref, des entreprises tech qui n'étaient pas proches de Trump il y a quelques années ou même quelques mois. Il y avait eu par exemple en 2017 l'épisode d'un tweet de Donald Trump qui avait fait chuter la valeur boursière d'Amazon de près de 6 milliards de dollars, alors qu'aujourd'hui Jeff Bezos donne 2 millions de dollars pour l'investiture et se rend à Mar-a-Lago, en Floride, chez Trump, pour espérer être dans ses bonnes grâces. Tim Cook, le patron d'Apple, est également présent. Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI qui a créé ChatGPT, y est aussi allé de son don d'un million de dollars. Spatial, automobile, intelligence artificielle, réseaux sociaux, toute la tech apporte son soutien à Donald Trump, dont le deuxième mandat va démarrer sur des bases très solides sur le plan économique.
Et cette omniprésence des acteurs mondiaux de la tech auprès de Donald Trump donne des boutons à plusieurs personnalités de gauche en métropole qui ont décidé de se retirer de certains réseaux sociaux, notamment de Twitter. Démarche plutôt paradoxale, explique Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
La députée écologiste Sandrine Rousseau est à l'origine de cette initiative. Pourtant, Sandrine Rousseau a bâti l'intégralité de sa notoriété en publiant année après année des saillies à répétition sur Twitter. Une stratégie imitée par ses collègues écologistes Yannick Jadot, Dominique Voynet, Cyrielle Chatelain ou le communiste André Chassaigne. Tout cela annonce aujourd'hui suivre la tendance et supprimer leur compte. Mais cette vague de départ reste insignifiante. En effet, seuls 4% des députés français quittent la plateforme, alors que 96% d'entre eux ont un compte Twitter et près de 20 millions de Français utilisent X chaque semaine. Un argumentaire partagé par Jean-Luc Mélenchon, Marine Tondelier ou Olivier Faure qui restent sur la plateforme. Enfin, des médias de gauche comme Mediapart ou Le Monde quittent eux aussi Twitter. Une décision paradoxale car Xavier Niel est actionnaire minoritaire de ces médias et pourtant il est bien présent à l'investiture de Donald Trump.
D'autre part, il y a 8 ans, au début du premier mandat de Donald Trump, Emmanuel Macron avait tenté d'afficher une grande proximité avec le président américain. 8 ans plus tard, les relations se sont visiblement distendues. Le chef de l'État français n'était pas à Washington pour la cérémonie d'investiture, il était à Cesson-Sévigné, en Ille-et-Vilaine, pour la cérémonie des vœux aux armées françaises. Il n'a jamais cité le nom de Donald Trump dans son discours, mais c'est bien de lui qu'il s'agissait lorsqu'Emmanuel Macron a évoqué le conflit en Ukraine auquel le président américain a déclaré qu'il mettrait fin rapidement.
Ne nous leurrons pas. Ce conflit ne se terminera pas demain ni après-demain.
Il ne peut pas y avoir de paix et de sécurité en Europe sans les Européens et sans qu'elle ne soit négociée par les Européens.
Et pendant sa campagne, le président américain a aussi dit vouloir annexer le Groenland.
Nous devons reconfigurer notre présence dans le monde, y compris dans ces espaces où la fonte des glaces crée de nouvelles situations géopolitiques. Qui aurait pensé, il y a encore un an, que le Groenland serait au centre des débats politiques et stratégiques. Et
Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées françaises. Un mot d'actualité en métropole avec ces violences urbaines à Mâcon, dans le quartier sensible des Saugerais. Dans la nuit de samedi à dimanche, 3 bâtiments publics ont été dégradés, 7 véhicules incendiés, plusieurs voitures de police prises à partie ou caillassées. Selon le maire LR Jean-Patrick Courtois, ces violences sont liées au trafic de stupéfiants qu'il faut combattre, dit-il, avec plus de moyens.
Il faut créer un parquet national financier pour le narcotrafic. Il faut saisir les biens directs ou indirects sur le narcotrafic, qui pourrait d'ailleurs subventionner les forces de police. Et il faut absolument lutter contre ce fléau qui va nous emporter, parce que de l'argent sale devient demain légal lorsqu'il est recyclé.
Le maire LR de Mâcon, Jean-Patrick Courtois. 11h56, la dernière pause de ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et de retrouver ensuite le magazine citoyen.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Envie d'une pause gourmande à l'italienne? Gino Pizza vous régale au centre équestre La Gourmette à Magenta, en face de l'aérodrome. Sur place ou à livrer avec Nidit, profitez d'une pizza généreuse et savoureuse avec des ingrédients frais. Gino Pizza, l'allié de vos moments d'évasion, téléphone 31 91 92.
Besoin de chaussures ou de vêtements de sport? Pensez à votre magasin Ozone Sport situé au centre-ville de Nouméa. Venez découvrir les plus grandes marques de sport telles que Nike, Adidas, Skechers et plein d'autres. Ouvert en continu du mardi au samedi de 9h à 17h30. Facebook Ozone Sport.
Un projet de relooking pour votre maison intérieure et extérieure? Bateau, automobile, hôtellerie ou restaurant? Tissu Passion vous propose un large choix de tissus d'ameublement ainsi que des tissus techniques adaptés à tous vos projets. Tissu Passion, votre spécialiste tissu au 71 rue Charleroi à Sainte-Marie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
C'est donc le sport et on va commencer avec le tennis et la fin d'une belle aventure pour Gaël Monfils à l'Open d'Australie. Le Français ne verra en effet pas les quarts de finale du premier tournoi du Grand Chelem de la saison, Lionel Sabot.
À 38 ans, Gaël Monfils a craqué physiquement lors de son match face à l'Américain Ben Shelton. Match extrêmement serré entre les deux hommes qui n'ont rien lâché pendant 3-7. L'Américain a remporté le premier 7-6. Monfils a gagné la deuxième manche 7-6 et Shelton a repris l'avantage en emportant le troisième 7-7-6 également. Mais après plus de 3 heures d'un duel intense et alors qu'il venait de perdre le premier jeu de la quatrième manche, Monfils a craqué physiquement. Une violente douleur l'a contraint à l'abandon. Écoutez Gaël Monfils qui aura tout de même réalisé un très beau parcours dans cet Open d'Australie.
À la fin, moi j'ai plus de jus du tout. J'ai déjà pas mal de douleurs. J'avais quelques douleurs et à la fin, je pense qu'une grosse douleur, plus de jus, c'est pour éviter un très gros accident. Donc déjà, j'ai passé la limite, donc je pense que c'était impossible de rester. Sinon, j'allais me faire quelque chose de très grave, peut-être.
Gaël Monfils contraint à l'abandon. Il n'y a donc plus de Français en lice dans cette première levée du Grand Chelem. Un coup d'œil au quart de finale dans le tableau messieurs de cet Open d'Australie. Ben Shelton affrontera l'Italien Lorenzo Sonego. Le numéro 1 mondial, l'Italien Sinner, affrontera l'Australien Alex de Minaur. Novak Djokovic rencontrera Carlos Alcaraz pour le choc. Alcaraz, et pas Alcatraz, c'est la prison Alcatraz. Donc Alcaraz pour le choc de ses quarts de finale. La dernière rencontre verra une confrontation entre l'Américain Tommy Paul et l'Allemand Alexander Zverev. Un mot du tableau d'âme pour vous signaler que Madame Monfils, l'épouse de Gaël Monfils, l'Ukrainienne Elina Svitolina, rencontrera elle en quart de finale l'Américaine Madison Keys.
Allez, on va rester en Australie pour le coup d'envoi. Il y a quelques minutes maintenant du Tour Down Under. C'est du cyclisme et c'est la première épreuve de la saison sur le Pro Tour.
Oui, effectivement, la saison 2025 de cyclisme sur route est donc lancée. Les 140 coureurs engagés sur ce Tour Down Under 2025 se sont élancés un peu après 11h30 pour la première étape. Une étape longue de 150 km 700 qui va mener les coureurs de Prospect à Gomracha, c'est dans le nord d'Adélaïde. Première étape courue sur des routes très sinueuses avec les premières difficultés de ce Tour Down Under. Au total, ce sont les coureurs de 20 équipes qui ont fait le déplacement jusqu'en Australie. Parmi les coureurs, il faudra suivre de près le Britannique Stevens Williams, vainqueur de la précédente édition, mais aussi l'Australien Jevine qui s'était imposé en 2023. Côté français, ils sont 17 au départ de ce Tour Down Under. Il faudra suivre de près Paul Lapéral, le champion de France sur route en titre. Notez que l'arrivée finale de ce Tour Down Under 2025 sera jugée dimanche dans les rues d'Adélaïde après un peu plus de 821 km de course.
Et pour terminer, le basket et le championnat nord-américain qui débarque à Paris.
La NBA qui vient faire son show outre-Manche, outre-Atlantique pour deux matchs de la saison régulière du championnat le plus célèbre du monde. En effet, les San Antonio Spurs du français Victor Wembanyama rencontreront à deux reprises les Indiana Pacers, la franchise d'Indianapolis. Les deux rencontres se joueront à guichet fermé à l'Accor Arena. L'Accor Arena qui va donc retrouver avec grand plaisir Victor Wembanyama qui a entamé sa deuxième saison chez les Spurs.
Beaucoup d'émotions évidemment, de voir des gens, des visages familiers, que ce soit du club ou même de la ville, etc., des gens qui s'occupent de la salle. Ça fait vraiment plaisir et ouais, on retrouve quelques sensations oubliées, enfin qui datent pas trop, mais on retrouve quelques sensations. C'est spécial parce que on s'attend pas à ça dans une carrière, mais c'est la manière dont j'aborde ce voyage, c'est un peu ma manière à moi de rendre un peu au public français, d'essayer de faire plaisir pour beaucoup de gens qui n'auront jamais eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Donc c'est vraiment important pour moi et on est arrivé que depuis quelques heures, mais c'est déjà incroyable.
Et les deux rencontres entre les Spurs et les Pacers se joueront vendredi et dimanche pour nous. À ce stade de la saison, les San Antonio Spurs ont remporté 19 matchs et en ont perdu 22. Les Pacers comptent 24 victoires pour 19 défaites.
Midi et bientôt 2 minutes, c'est la fin de ce journal.